soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus dans une heure ou presque d'errance en terre rock, folk, etc. Au début de l'automne 2019 paraît Providence, 12e album de Shannon Wright en 20 ans. Cela faisait longtemps que la musicienne américaine songeait à faire un tel disque qu'elle imaginait s'affranchir de l'électricité des guitares, de l'orage des percussions, du grondement des basses. Qu'elle aspirait à se retrouver seule au piano. Providence est un disque exceptionnel. Derrière son piano, Shannon se fait multitude. Sa voix se dédouble, ses mains sur le clavier dialoguent, l'écho nimbe les chansons d'une brume qui embrouille les contours, en repousse les limites. Ces nœuds de résistance que sont les morceaux de Providence prennent des airs de chant infinis, d'hymne à l'appel au large. La voix perce de ses aigus la fine pellicule qui semblait, jusqu'à ce qu'elle s'exprime, séparer Shannon du reste du monde. La musique, ici, revêt ses habits éternels, ceux des ritournelles que l'on se chante pour combattre la peur et se donner du courage pour aller se mêler au monde. Les mots de Shannon Wright se brisent, épousant les arêtes de ses pensées, empruntant ses raccourcis, accueillant ses visions. Le chant de Shannon Wright, dans cette mise à nu, est absolument bouleversant. Il est confidence, vérité finalement livrée, mots enfin posés sur les plaies. Et quand les mots viennent à manquer, ce sont les doigts de Shannon sur le piano qui prennent le relais et tentent de se frayer un chemin vers une sortie lumineuse. Toute plante ne progresse-t-elle pas opiniâtrement vers les lueurs, malgré tout ?
Thank you.
Après le déluge électrique des guitares dans lequel son chant s'était si longtemps coulé, Shannon Wright s'est présenté à nous au premier jour de l'automne 2019 derrière un simple piano. Et nous avons découvert que l'intensité qui caractérisait sa musique était intacte, que le propos de cet album, Providence, en était peut-être plus frappant encore. C'est un disque comme un tendre coup de poing. Une douzaine d'années auparavant, une autre musicienne semble avoir fait le même chemin. L'anglaise Polly Jean Harvey, en 2007, fait paraître un court album, White Shalk. C'est son septième, et lui aussi surgit dans une discographie qui jusque-là avait fait la part belle aux guitares et aux amplis, à une colère branchée sur le secteur. Le journaliste Christophe Comte, quand White Shalk paraît, écrit ceci dans Les Inrecuptibles. 15 ans après avoir introduit la guitare rasoir à 6 lames et ce chant de muqueuse enflammée qui constituait Dry, son premier album, PJ Harvey est à nouveau vierge, blanche comme la craie, White Shalk, mais toujours aussi coupante et dépolie que l'ardoise. Composée quasi intégralement au piano, instrument qu'elle touchait ici pour la première fois, cet album ne repose pas uniquement sur ses histoires d'outillage et de baptême, mais il leur doit une grande part de sa beauté à la fois farouche et solennelle. La voix étranglée, perchée et inhabituellement fêlée de PJ Harvey s'adresse, dans cette chanson, aux ténèbres. « Ma chère obscurité, moi qui fus ton ami durant tant d'années, ne voudrais-tu pas me couvrir encore un peu du soleil ?» Et dans cette supplique, quand elle menace de rompre, la voix de PJ est soutenue par celle grave et ombreuse de Jim White, dont la batterie soutient, en un même élan, une même main tendue, une même délicatesse, le piano de Polly Jean Harvey. Jim White se fait connaître à l'orée des années 90, quand commencent de paraître les albums du trio instrumental Dirty Three, emmené par trois musiciens australiens, White à la batterie, Mick Turner à la guitare et Warren Ellis au violon. Ce dernier, qui intégrera bientôt les Bad Seeds de Nick Cave, au sujet de cette formule en trio, put confier. Trois est le bon nombre pour jouer. Chacun doit être beaucoup plus attentif à ce que font les deux autres. Chaque instrument a un rôle bien précis dans notre formule. Ce n'est pas comme si l'un de nous se contentait de faire de l'accompagnement. En 1996 paraît le troisième album de Dirty Three, intitulé Horse Stories. Les trois hommes explorent, d'une manière plus poignante que jamais, les chemins de la liberté. Tous trois incarnent cette figure du cheval qui orne la pochette du disque et qui survole villes et océans, dont la silhouette noire est peinte de traits vifs et généreux qui savent se souvenir de l'enfance, de l'absolu de l'enfance. 1000 Miles ouvre l'album Horse Stories de Dirty Three. La voici.
Thank you. I know it makes you feel sad. Then you look at me that way. Your hands hold on the railing as we glide across the bay. With everything uncertain, it's easy to defend. But we do not talk of feelings, and with you I can't pretend. I don't believe in the power of love. I don't believe in the wisdom of stone. I don't believe in a god or the mind. And I'm not alone. Listen to your breathing, it's steady and it's slow. We lie close to the ceiling, I think of children in our home. But the quiet in the quarter stirs me from the thought. I might leave tomorrow to feel the joy of a new start.
Tambours et cymbales de Jim White sont sans cesse inventifs, chantant, dansant, dialoguant avec ce qui les entoure, s'évadant parfois pour aller à la rencontre de ses propres chimères, puis revenir, s'accrocher au ruban ondoyant des rythmes qu'il avait plutôt dessinés. Nette ou songeuse, précise ou balayant large, grave ou suspendue, la frappe de Jim White est incomparable et a visité nombre de ses musiques que l'on aime tant, de Cat Power à Will Oldham, de Bill Callahan à Mark Kozelek. Sur ces deux morceaux enchaînés, Jim White officiait, magistral, à la batterie. Tout d'abord, dans 1,000 Miles, morceau augural de l'album Horse Stories, de son groupe Dirty Three. Puis, 10 années plus tard, aux côtés de la chanteuse et guitariste américaine Nina Nastasia, à l'occasion du 5e album de la musicienne, co-signé avec White, You Follow Me. Sur l'artiste new-yorkaise, Jean-Daniel Beauvallet, dans Les Inrecuptibles, avançait ceci. L'urgence et la tension encerclent systématiquement ses chansons douces et pourtant inquiètes, spartiates et pourtant opulentes. La voix particulièrement captivante de Nina Nastasia, comme celle de ses illustres aînés Vashti Bunyan, Karen Dalton ou plus récemment Shawn Marshall, possède une grande richesse d'expression, une grande palette de palais, de la complainte à la rage glaciale. Solennelle et ensorcelante, cette voix impose à elle seule ses humeurs, ses murmures, ses amertumes. Tous les albums de Nina Nastasia sont enregistrés par le célèbre producteur Steve Albini. Du premier disque de la musicienne, qui a paru en 2000, Dogs, l'homme put confier « Parmi les 2000 albums que j'ai produits, il reste un de mes préférés, l'un desquels je suis le plus fier. Shannon Wright, PJ Harvey et Dirty Three ont eux aussi travaillé sous la houlette de l'intègre et hyperactif Albini, ainsi que Nirvana, Pixies, les Stooges et tant d'autres groupes connus comme inconnus. Choisissons un des milliers de disques enregistrés par Steve Albini. Il date de 2005, il s'intitule Axes. Il est signé du groupe Electrolane. We'll be right back. Les rythmes métronomiques du psychédélisme allemand de Cannes ou Neuss, soumis à quelques voyages en montagne russe, la fantaisie des Raincoats qui s'inviteraient pour l'occasion et les dissonances chères à Sonic Youth. Il y a un peu de tout cela et tant d'autres choses encore dans la musique unique d'Electrolane. Au long de la décennie 2000, les musiciennes britanniques d'Electrolane ont livré une poignée de disques incandescents où le chant se fait rare et dans tous les cas, lointain, comme s'il avait fallu habituer les auditeurs à un prochain et inéluctable silence. Depuis 2007, aucun disque d'Electrolane n'a paru. Mais il demeure 5 albums inépuisables, dont Exes, le 4e, est peut-être le plus impressionnant. 8 Steps, à l'instant écouté, en est extrait. Sur ce même disque, un peu plus loin, le groupe livre une version pied au plancher et potard dans le rouge de la complainte popularisée par Leonard Cohen, The Partisan. Personne auparavant ne l'avait reprise comme ça. Pourtant, The Partisan, en français la complainte du partisan, a de maintes fois été reprise. Le quintet américain, originaire de Stillwater, Oklahoma, Other Lives, par exemple, l'a beaucoup chanté, et de manière magnifique, en concert, notamment au tournant des années 2010. C'est à ce moment-là que le groupe Other Lives commence de se faire connaître d'un large public. À la fin de l'été 2011, paraît leur chef-d'œuvre, Tamer Animals.
Death beneath our feet has not given way. many long years of wandering. Oh, the water will part, clear us of this mess, restore our good name, grace us at our death and rise from above, suddenly feeling.
Chez Other Lives, la foisonnance des orchestrations n'entrave jamais l'évidence et la fluidité mélodique, et ce n'est pas là le seul miracle de leur musique. En un même morceau, le groupe, emmené par le multi-instrumentiste Jesse Tabish, parvient à faire surgir les univers a priori étrangers de Ennio Morricone et de Philip Glass, de Johnny Cash et des Beach Boys. Pour continuer de tenter les références, on peut citer le critique Hugo Cassavetti qui, dans Télérama et quand paraissait l'album, écrivait ceci. Other Lives explore sur Tamer Animals un territoire musical personnel, subtilement orchestré, positivement enchanteur, qui se situerait à mi-chemin de la majesté harmonique des Fleet Foxes et de la richesse instrumentale de Grizzly Bear. Demeurons alors auprès de la première de ces deux références citées par Cassavetti, Fleet Foxes. Ce groupe, originaire de Seattle, animé par le chanteur et guitariste Robin Pecknold, fait paraître son premier album en 2008. Lors de l'enregistrement du disque, Robin part pour faire un break avec son frère et sa sœur en voyage en Angleterre. Là, il se plonge dans le folk rock de la fin des années 60, celui de Fairport Convention, par exemple. Robin Pecknold se souvient. J'ai aimé là-bas flâner dans les rues ancestrales, marcher autour des vieux cercles de pierre. Le soir, nous dormions dans des demeures du XIXe siècle et nous écoutions de la musique traditionnelle irlandaise ou écossaise dans les pubs locaux. Je pense que ça a clairement nourri le disque.
She left a week to roam, your protector's coming home. Keep your secrets with you, girl, safe from the outside. You walk along the stream, your head caught in a waking dream. Your protector coming home. As you lay to die beside me, baby, on the morning that you came, would you wait for me? The other one would wait for me. As you lay to die beside me, baby, on the morning
Le premier plaisir qu'on prend à écouter l'album de Fleet Foxes est tout simple. Et on se demande encore comment les garçons états-uniens font pour en garder la recette sans être inquiétés plus que ça. 3, 4 ou même 5 voix mâles harmonisant comme autour du traditionnel feu de camp. Sun It Rises, le petit morceau d'ouverture, rénove le vieux chromo des Beach Boys en train de s'étirer juste avant la plage. White Winter Hymnal a cette suavité rustique propre à nous faire prendre ces jeunes gens diversement hirsutes pour des moines ou des paysans d'une autre époque. En couverture, ils ont choisi de reproduire un tableau de Bruegel, un peintre beaucoup plus ancien qu'Andy Warhol. On y perçoit comme l'envie de s'imaginer en petit bonhomme perdu dans la toile. Modestes artisans du folk, en grattant ça et là dans l'ouvrage, on déniche un peu plus d'ambition. Ces mots sont empruntés à François Gorin qui signait pour Télérama la chronique célébrant la parution du premier album du groupe Fleet Foxes. Album ne portant pas de titre et orné, comme le précise le critique, d'un détail du tableau Proverbe flamand, datant de 1559, peint par Pieter Bruegel l'Ancien. 40 ans auparavant, exactement, un autre groupe de folk choisissait d'utiliser lui aussi un détail d'une toile de Bruegel l'Ancien, datant cette fois de 1562, le Triomphe de la mort. Il s'agit de la formation de folk psychédélique Pearls Before Swine, et de leur second album Balaclava. Les scènes apocalyptiques du tableau, allégorie de la mort, mise en scène de crimes, exécutions, maladies, guerres et suicides, tranchent étrangement avec la douceur apparente de la musique qui y est recueillie. Si l'on écoute ce que confie tout au long du disque la voix fêlée, voilée de Tom Rapp, le leader du groupe, on découvre le nuage noir qui recouvre la musique proposée ici. C'est le nuage de la guerre du Vietnam. Parmi les premiers mots du disque, on discerne ces paroles. En temps de paix, les fils enterrent leurs pères. En temps de guerre, les pères enterrent leurs fils. Puis, plus loin, c'est la chanson « Lepers and Roses » que l'on entend pointer. Tom Rapp y lâche, le halo du matin se dissipe, le jour s'enfuit et rien pour toi n'est résolu.
The halo morning has dissolved. The day is gone and nothing solved for you. The sand castles are merely sand. The sea has crawled back from your hand too soon. In fields where Susan sings, the leopard brings yesterday. Begin to stain the lace on your raincoat. by the hand lead you into another land, land without shade, where trees are made for you. Tiresias will try to find a monument to the death of I. So leave the blind roses behind. Today, hiding behind the mask, what would you ask? What could you ask? Alpha and Omega laugh behind the glass, sell bootstraps from a bag.
Paru sur le label d'avant-garde ESP Disc, qui signe en cette fin des années 60 les plus grands noms du free jazz, Albert Ayler, Pharoah Sanders, Don Cherry, paraissent les deux premiers albums du groupe folk Pearls Before Swine. Le second, Balaclava, est tout entier placé sous le signe de la guerre et de la destruction. Sa pochette s'orne d'une scène de désolation peinte par Bruegel. Il s'ouvre avec une citation de la charge de la brigade légère. Son titre fait référence au théâtre d'une célèbre et désastreuse bataille de la guerre de Crimée. Sur ce second disque, Pearls Before Swine se réduit au seul guitariste, chanteur et auteur des chansons, Tom Rapp, lequel s'entoure de musiciens choisis pour l'occasion. Le pianiste et flûtiste Lee Crabtree, membre d'un autre groupe de folk psychédélique signé par ESP, les Fugs, est là, ainsi que plusieurs musiciens de la sphère du free jazz new-yorkais tel Warren Smith. Présent également à la basse, le musicien de soul Bill Salter. Et à la guitare, sur un seul titre, celui à l'instant écouté dans Eldorado, Lepers and Roses, la guitare électrique et ondoyante du grand Al Shackman serpente autour des mots de rap et de la flûte de Crabtree. Al Shackman est surtout resté dans les mémoires pour sa collaboration avec la chanteuse et pianiste Nina Simone. Tout au long des années 60, Shackman est là, près d'elle, en concert comme en studio. En 1965, par exemple, il figure à la guitare et à l'harmonica sur les deux albums que Nina Simone fait paraître sur le label Philips cette année-là, Let It All Out et Pastel Blues.
More and then some. Daddy, you know what I wanna hear. I want some more and then some. That I love you only, dear. I want some more and then some. Of how you feel and then when you done told me about a million times how much you love me and you threw start right back in again. I've made the same mistake. I know the awful ache of a little heart that's been double-crossed. The waiting's been so long, so long. It's hard to be believing. I thought I'd missed my guess. Thought happiness for me was lost. I want more, some more, some more than some. You know how I love that stuff. Whisper from now on till doomsday, but I never, no, 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 ooh, I never, no, I never will get enough.
Sur son album Pastel Blues, Nina Simone chante deux chansons de Billie Holiday. Celle-ci, Tell Me More and Then Some, écrite et composée par Billie elle-même, ainsi que Strange Fruit. Si ce n'est pas Billie Holiday qui composa cette dernière, mais le poète et militant communiste Abel Meeropol, après la mort des époux Rosenberg, il adoptera ses deux enfants. Strange Fruit est indéfectiblement associé à Billie Holiday. C'est elle qui la chante la première, dès 1939, au Café Society à New York. Cette chanson, qui narre de manière déchirante le lynchage des Noirs aux États-Unis, parera pour toujours sa carrière d'ombre et de lumière. L'ombre, des corps qui se balancent et empêchent toute légèreté. La lumière, de son génie, qui chaque fois que Billie l'interprétait, éclatait au grand jour. Nina Simone, militante, révoltée, reprend donc naturellement Strange Fruit en cette année 1965. Et 15 ans plus tard, Robert Wyatt la reprend à son tour. Militant communiste et passionné de jazz, Robert s'attaque au monument Strange Fruit et en livre une version magnifique d'une pudeur exceptionnelle. Le filet de voix aérien de Robert, sa fragilité, son étonnement venu de l'enfance, et son vibrato sans âge, cette voix d'un souffle coupé devant l'indicible, cette voix qui semble ne pas croire, ne pas pouvoir réaliser ce qu'elle chante, offre à Strange Fruit une de ses plus belles interprétations. Devant l'horreur, que faire? S'indigner ou chercher refuge? Wyatt parvient, dans l'infini des 3 minutes et 30 secondes de sa chanson, à dessiner les deux. Le point levé de la révolte et la ligne de fuite du retrait. Un cri qui déchire le ciel et les cordes vocales noyées par les pleurs. C'est sur ces 3 minutes et 30 secondes-là, que cet épisode d'Eldorado trouvera son terme. C'est la voix de Robert Wyatt qui terminera cette errance en terre rock, folk, etc. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. Pour retrouver toutes les émissions, découvrir le détail des chansons en leur sein programmé, je vous invite à suivre cette adresse www.radio-eldorado.fr. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao.